Vous êtes avec SBS French.
Europa Voice numéro 147. Et comme pour toujours, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
On va parler de deux sujets aujourd'hui. Premièrement, on va parler du défi du gouvernement français. Où en est-on aujourd'hui de la nomination de ce gouvernement et qu'en est-il de ce gouvernement? Et après, dans la deuxième partie d'Europa Voice, nous parlerons des défis, mais cette fois-ci de l'Union européenne et de Ursula von der Leyen. Donc, Nathanaël, ce gouvernement a été nominé, placé, divulgué, sorti du chapeau, comme on veut. On en sait quoi? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce qui s'est passé depuis la nomination de ce gouvernement?
Sur ce gouvernement Barnier, il y a... J'allais dire.
J'ai mâché mes mots. Hein.
Oui, vous avez mâché vos mots. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Au-delà des personnalités qui ont été nommées par le Premier ministre et le Président de la République, je crois que c'est important de le rappeler. Mm-hmm. C'est le Premier ministre qui fait son gouvernement. Mais en vrai, dans le régime semi-présidentiel, le président a vraiment son mot à dire. La première chose, c'est qu'en fait, beaucoup d'analystes attendaient un gouvernement resserré. Mm-hmm. Peu de ministres, efficaces. Et puis, comme on était aussi dans une phase d'incertitude par rapport à toutes les questions de confiance, évidemment, de manière un peu mathématique, le moins il y avait de ministres à valider, ouais, le plus facile cela aurait été. Première surprise, en fait, c'est absolument pas un gouvernement resserré, c'est plutôt même un gouvernement assez important en termes de nombre de ministres délégués, de secrétaires d'État. Donc ça, c'est le premier élément qui est surprenant. Le deuxième élément, c'est que, et je vais prendre deux exemples, je vais parler de l'environnement, l'écologie, les transports et de l'Union européenne, c'est qu'on assiste en fait depuis le début de la présidence Macron et du premier mandat d'Emmanuel Macron à des allers-retours. C'est-à-dire que vous avez un gouvernement où vous avez les transports qui sont rattachés à l'environnement, à l'énergie, il y en a un autre où c'est un ministère propre. Enfin, vous voyez, il apparaît en tout cas pour moi comme un manque de cohérence dans certaines attributions, parce que c'est ça qui est important. C'est moins, j'allais dire, le ministère que le périmètre de ce ministère-là. Qu'est-ce que ça couvre? Parce que les arbitrages ne sont pas les mêmes. Et il y a une vraie inconstance pour moi sous ce gouvernement Barnier avec ce qui a été fait précédemment. Et puis sur la question de l'Europe qui nous intéresse, c'est aussi, si je ne me trompe pas, le 6e ou le 7e secrétaire d'État, ministre délégué, ministre pour l'Europe. Donc, très difficile d'avoir une continuité et d'avoir, j'allais dire, des ambitions européennes durable quand on change aussi souvent de ministre de l'Europe.
Alors, un point aussi également, je voulais qu'on aborde au début de cette Europa Voice, c'est que le gouvernement Barnier a mis le ministère de l'Intérieur au cœur de l'échiquier. On sait que Darmanin était un ministre presque tout puissant au sein des précédents gouvernements. Il est resté plus qu'un gouvernement, c'était vraiment quelqu'un qui restait depuis un petit moment. Qu'est-ce qui change dans l'attitude là? Aujourd'hui, on sent que, en tout cas, le nouveau ministre de l'Intérieur a dit qu'il allait resserrer la vis. Il a dit qu'il allait changer un peu les choses, changer la donne.
De l'ordre, de l'ordre, de l'ordre.
De l'ordre. Ça veut dire quoi?
Alors, c'est une question intéressante. D'abord sur Darmanin et sur la longévité du politique, du ministre. En fait, il y a un seul ministre, c'est Le Cornu, c'est le ministre des Armées et de la Défense, qui est le seul ministre qui est là depuis le début des gouvernements Macron en 2017. Donc effectivement, Gérald Darmanin avait une certaine longévité, mais maintenant il est out et il ne reste plus qu'un fidèle des fidèles parmi le cercle d'Emmanuel Macron. Il faut aussi noter tout de même que certains ministres sont aussi restés entre le dernier gouvernement Attal et le gouvernement Barnier. C'est le cas par exemple de Rachida Dati, même si certaines affaires qui resurgissent avec EDF et Henri Proglio pourraient faire qu'elle ne reste pas très longtemps au ministère. Donc ça, c'est le premier élément, c'est qu'il y a quand même un changement d'équipe assez, assez complet. Sur la question du ministère de l'Intérieur et de Bruno Retailleau, qui est quand même un profil assez à droite, moi je dirais deux choses.
Plutôt conservateur quand même.
Plutôt conservateur, plutôt à droite, je dirais deux choses. La première, c'est que finalement, je ne sais pas si on a eu tendance à l'oublier un peu vite, mais Darmanin, c'était tout de même aussi un ministre assez à droite du temps où il était membre des Républicains. Donc si on met de côté la parenthèse...
La fonction veut que ce soit quand même un peu plus serré quand même.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de continuité politique, finalement, je ne suis pas sûr qu'on voit tellement
de différence,
mm-hmm. ou en tout cas de changement drastique entre les politiques Darmanin et les politiques Retailleau. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, d'un point de vue de la stratégie politique, c'est un gage d'assurance quand même pour le Rassemblement national. Il aurait été inconcevable de nommer des ministres Rassemblement national. Il aurait été encore plus inconcevable d'en nommer aussi symbolique mm-hmm. ministère de l'Intérieur Place Beauvau. Par contre, on ne pouvait pas donner plus de gages et de bonnes conditions, j'allais dire, au Rassemblement national qu'en nommant quelqu'un comme Bruno Retailleau. Et donc, pour moi, il y a...
C'est un peu où je voulais en venir. Hein. C'est qu'en fait, cette nomination, elle est quand même largement aussi pour faire plaisir au Rassemblement national.
De toute façon, les compromis qui devront être faits vont potentiellement aller du centre de En Marche, de Renaissance, jusqu'aux portes du Rassemblement national. Pour l'instant, la gauche, dans son ensemble, les alliances de gauche sont complètement hors jeu mmh. en termes de validation du projet Barnier. Et d'ailleurs, il va présenter, si je ne m'abuse, aujourd'hui en heure française, donc on enregistre avant la présentation de la feuille de route de Michel Barnier. Mais pour l'instant, Michel Barnier n'a pas la confiance, en tout cas n'a pas le blanc-seing, même de la gauche la plus modérée. Donc c'est effectivement Retailleau au ministère de l'Intérieur. D'abord, d'un point de vue de politique et d'alliance, il fallait donner des sièges importants aux Républicains pour mmh. qu'ils acceptent de rentrer dans ce gouvernement Barnier. Alors, est-ce que Wauquiez n'avait pas un rôle assez important et de fait, il a refusé ? Ça, c'est à voir. Et surtout, il fallait donner des gages au Rassemblement national, encore une fois, pour qu'il puisse, en l'occurrence, voter la confiance au gouvernement Barnier.
C'est quand même ouais, très intéressant de ce côté-là. Est-ce qu'il y a d'autres ministères qui vous surprennent ? Moi, j'en prends un, le ministère des Sports. Enfin, la jeunesse et des sports, je crois que ça s'appelle. On sort des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques n'ont jamais été organisés, selon certains Français. Mais on change le ministre des Sports. Voilà, ministre des Sports. C'est une surprise. On sait qu'elle était décriée avant les JO.
Elle était décriée quand même.
Oui, avant les JO, mais elle a été beaucoup décriée pour les JO. En relation avec les JO.
Encore une fois, je crois que la question, c'est moins.
Quel message on envoie là ?
Je crois qu'on envoie juste le message que la parenthèse féerique olympique, déjà, elle est terminée.
Mm-hmm.
Elle est derrière nous. Et puis, en fait, malheureusement, le ministère des Sports et de la Jeunesse, ça reste quand même toujours des ministères seconds quand ils ne sont pas secrétariat d'État. Non, je crois qu'encore une fois, il y avait au-delà de l'attribution des postes, il y avait deux enjeux. Il y a l'enjeu du périmètre des ministères qui a son importance dans ce gouvernement. Je prends juste un exemple. Mmh. La question du handicap qui est très importante. On était quand même, je parle du handicap et de la maladie en général, on était quand même aussi sur un projet de loi fin de vie qui a dû être stoppé net avant la dissolution. Ça, c'est une vraie problématique pour deux raisons. D'abord, parce que tout le travail législatif devra être repris presque de zéro. Mmh. Et évidemment, les positions d'une majorité à l'Assemblée nationale beaucoup plus à droite sur les questions de fin de vie va être beaucoup plus conservatrice, cette position-là, qu'elle ne l'est, par exemple, pour un gouvernement de gauche. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, par exemple, juste le handicap lui-même sort du périmètre d'un ministère qu'il avait avant, sous le gouvernement Gabriel Attal.
Mmh.
Donc, pour moi, la vraie question, c'est la question de ce périmètre des ministères. Sur la question des hommes, c'est encore une fois, c'est l'ancienne ministre des Sports, Oudéa Castéra. Quelle est sa plus-value par rapport à la stratégie politique et au jeu d'alliance que le groupe En Marche doit faire avec d'autres groupes versus d'autres ministres et d'autres personnalités ? Et je crois, en l'occurrence, qu'elle apportait peu en termes de gage que le président de la République pouvait donner à ses alliés de circonstances politiques. Et c'est une des raisons pour lesquelles elle est partie de ce gouvernement-là. C'est moins, pour moi, beaucoup moins lié à la question des débats et des problèmes qu'il y a eu avant les Jeux Olympiques et pendant les Jeux Olympiques.
Alors, l'arrivée aussi à l'éducation d'Anne Genetet, qu'on connaît bien, qu'on a eu dans ce programme d'ailleurs plusieurs fois à l'antenne d'SBS ou à la fois sur Europa Voice. Anne Genetet, elle était donc la députée des Français de l'étranger dans la circonscription qui inclut donc l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Russie et tout un tas d'autres pays. Anne Genetet, elle est critiquée aujourd'hui, quand même pas mal. On a le sentiment que les derniers macronistes qui restent dans ce gouvernement, on les a un peu dans la ligne de mire aussi. Et là, Anne Genetet, elle est quand même bien dans la ligne de mire de ce qui se passe aujourd'hui au niveau des chaînes de télé, des infos. C'est compliqué pour elle aujourd'hui, en tout cas dans l'univers public.
Je trouve que c'est intéressant ce que vous avez dit, Christophe, parce que ce sont davantage les ministres En Marche,
oui,
et du camp macroniste qui sont critiqués que les ministres de droite. Il y a comme cette impression que finalement, les ministres issus des rangs des Républicains, enfin qui sont encore au Parti des Républicains, finalement ont joué le jeu, ont été malins, et puis on peut varier de position. Si on prend l'exemple de Retailleau, par exemple, on peut critiquer beaucoup de choses, mais finalement, il a toujours été sur une ligne assez conservatrice, à droite, j'allais dire presque filloniste, et les personnalités de droite finalement sont au gouvernement pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles ont porté en termes de projets politiques. Par contre, ce que l'opinion peut-être supporte moins, c'est effectivement après la défaite, parce que c'est une défaite du camp présidentiel, c'est moins une défaite de la droite qu'une défaite du camp présidentiel, mais après la défaite du camp présidentiel aux élections à la fois européennes et législatives, qu'il y ait encore à des postes importants des ministres issue des rangs macronistes. Et vous avez mentionné Anne Genetet, je crois qu'elle est quatrième au rang protocolaire, parce qu'il y a un rang protocolaire. Ouais. Donc c'est une personnalité importante de ce gouvernement. Donc ça, c'est le premier élément sur les critiques à l'encontre d'Anne Genetet, que vous avez raison, on a reçu plusieurs fois dans ces studios d'SBS et pour Europa Voice. D'abord, c'est une critique à l'encontre des ministres macronistes. La deuxième chose, c'est qu'elle hérite aussi d'un ministère, d'un paquebot qui est compliqué. Et je crois qu'une de ses premières déclarations, quand elle a dit qu'elle ne changera pas de cap, bah évidemment, elle se prend aussi la grogne des syndicats de l'éducation, etc., qui n'étaient pas forcément alignés avec les projets pour l'éducation nationale des gouvernements précédents, Attal, Castex, etc. Donc c'est cette double difficulté à laquelle elle se confronte, être du camp macroniste, avoir un grand ministère, et puis finalement ne pas vouloir changer le cap à l'heure où les Français ont clairement dit au président de la République qu'il souhaitait un changement de cap.
Y compris dans l'éducation.
Y compris dans l'éducation nationale.
Ouais, c'est ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce nouveau gouvernement, donc en France, le gouvernement Barnier. Pour sûr, je pense qu'on en reparlera quand même à l'antenne de SBS. On va parler maintenant donc de notre deuxième sujet, et à savoir les défis, les enjeux pour Ursula von der Leyen et l'Europe.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
De retour dans Europa Voice pour notre deuxième partie pour cette semaine. On va parler d'Europe, c'est le sujet, mais cette fois-ci, on va parler des défis devant la Commission européenne et l'Union européenne, et à savoir les défis devant Ursula von der Leyen, qui a dévoilé son équipe cette semaine. Une équipe sans Thierry Breton. On en a parlé la semaine dernière, parce qu'il était démissionnaire ou démissionné, selon comment on voit la chose. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui et des potentiels défis de la gouvernance autour d'Ursula von der Leyen?
Alors d'abord, le premier élément, Christophe, c'est que ce mandat, ce deuxième mandat d'Ursula von der Leyen n'est absolument pas le même que son premier mandat en tant que présidente.
C'est moins qu'on puisse dire, je crois.
De la commission. Donc déjà, elle part avec, j'allais dire, une image un peu plus écornée qu'elle ne partait lors de son premier mandat.
Il faut rappeler que pour son premier mandat, elle avait repris derrière quelqu'un comme Donald Tusk, qui avait mis une sacrée empreinte sur l'Europe. Donc elle avait aussi pas mal de choses à suivre. C'était quand même un mastodonte, Donald Tusk, au niveau européen. Là, aujourd'hui, elle va suivre son projet à elle.
Oui, et c'est intéressant de mentionner, parce que la relation entre la Pologne et l'Allemagne doit beaucoup, en fait, à la relation entre Donald Tusk et von der Leyen. Et d'ailleurs, des soldats allemands vont venir en renfort pour aider en Pologne. Donc, il y a une vraie, j'allais dire, on n'aime pas parler, enfin, en tout cas, on parle plus en France qu'en Allemagne, du couple franco-allemand. C'est beaucoup moins vrai pour l'Allemagne, mais je crois que elle est encore moins vraie parce que le tropisme allemand vis-à-vis de la Pologne a été extrêmement important. Avec cette empreinte et cette relation.
Disons
entre
que l'Allemagne est dans un couple beaucoup plus libre que la France l'est.
Exactement.
Le couple est beaucoup plus ouvert du côté allemand.
Exactement. L'Allemagne est dans une relation libre avec d'autres partenaires, alors que la France a encore cette image un peu
Monoganisme.
un peu Helmut Kohl, ouais. François Mitterrand, main dans la main, etc.
Mais les défis d'Ursula von der Leyen, parce qu'il y en a quand même. Il y en a quand même certains.
Alors, il y en a beaucoup. D'abord, il y a une véritable évolution des rapports de force entre États membres. Et il y a vraiment un tropisme de la politique européenne qui s'est déplacée à l'Est, qui s'est aussi déplacée à l'Est à cause de ce qui se passe en Ukraine et des changements stratégiques que cela a impliqué pour des pays du nord de l'Europe ou de l'Est de l'Europe. Donc d'abord, il y a une véritable urgence pour Ursula von der Leyen de continuer à orienter certaines politiques et prendre en compte ses partenaires beaucoup plus petits d'ailleurs comme pays de l'Est. La deuxième chose, c'est que sa commission est aussi beaucoup plus à droite. Alors ça peut paraître surprenant avec ce qui s'est passé en France, mais finalement c'est assez aligné avec ce qui se passe dans les autres pays de l'Union européenne.
Et ce qui risque de se passer ce week-end en Autriche.
Et ce qui risque exactement de se passer ce week-end en Autriche, c'est que finalement la commission européenne, qui est, d'après l'esprit des textes, etc., un gouvernement supranational qui va au-delà des intérêts des États, elle ressemble en fait beaucoup plus à ce qui se passe au sein des États. Et puis le troisième aspect, c'est que les rapports de force eux-mêmes entre les États ont changé, ont évolué, mais que Ursula von der Leyen, elle va aussi devoir se confronter à la réalité des défis de l'Union européenne et suivre des feuilles de route, ou en tout cas prendre en compte les conseils de personnalités comme Mario Draghi si elle veut que l'Union européenne soit encore un ensemble, j'allais dire, compétitif, cohérent à l'échelle mondiale. Donc elle a véritablement des défis, Ursula von der Leyen, pour ce deuxième mandat. Et je mets même de côté, vous l'avez mentionné dans votre question, je mets de côté évidemment les embrouilles, les disputes autour de Thierry Breton, etc., qui... ne lui facilite pas la tâche.
C'était la semaine dernière.
Oui, c'était la semaine dernière, mais c'est intéressant parce que on l'a dit la semaine dernière, Christophe. Au-delà de l'inimité personnelle entre les deux personnalités, il y a aussi quelque chose qui gênait Ursula von der Leyen chez Thierry Breton. C'est le fait qu'il avait des relations très conflictuelles avec les acteurs américains et les GAFAM, et qu'Ursula von der Leyen, c'est une politique et qu'elle sait que Donald Trump peut revenir dans le jeu dans quelques mois. Et donc, ce serait inconcevable d'avoir une personnalité comme Thierry Breton, alors que Stéphane Séjourné est beaucoup plus docile et moins expérimenté. Il connaît les rouages de l'Union européenne, mais il connaît beaucoup moins les rouages du portefeuille qu'il est en charge, ce qui n'est pas forcément très rassurant. Mais en tout cas, elle sait qu'elle aura beaucoup plus la main mise sur une personnalité comme Stéphane Séjourné qu'elle ne l'avait avec Thierry Breton.
Au sein de la garde rapprochée d'Ursula von der Leyen, il y a des Français. Il y a deal, il n'y a pas deal. Comment ça se passe en les dessous de table tout bien, tout honneur, mais comment ça se passe en Europe?
C'est intéressant parce qu'effectivement, il y a l'annonce il y a quelques jours de la nomination d'un directeur de cabinet adjoint, Alexandre Armand, qui est un haut fonctionnaire européen au sein du cabinet d'Ursula von der Leyen. Alors, est-ce que c'est monnaie pour monnaie, c'est ce que finalement Emmanuel Macron a réussi à placer un haut fonctionnaire français à un des postes les plus stratégiques, parce que directeur de cabinet ou directeur de cabinet adjoint, donc le stratège, vraiment le conseiller, le numéro 2, enfin 3 en l'occurrence puisque c'est adjoint, de la présidente de la Commission européenne, c'est un rôle éminemment politique. Et donc le fait d'avoir un Français au sein du cabinet d'Ursula von der Leyen, est-ce que c'est un gage aussi? Est-ce que c'est finalement Ursula von der Leyen qui a dit à Emmanuel Macron: Thierry Breton off, Stéphane Séjourné, mais tu prends aussi quelqu'un qui, je sais, pourra aussi défendre les intérêts français, encore une fois, à l'heure où la relation entre la France et l'Allemagne est peut-être un peu moins évidente, parce qu'Emmanuel Macron lui-même aussi est fragilisé sur la scène européenne, on en a parlé, hein. C'est peut-être lui qui voulait avoir laissé une empreinte de ses succès sur les scènes internationales européennes. Ce qui s'est passé à la fois aux élections et l'épisode Thierry Breton, ça fait tâche aussi sur finalement les succès du bilan d'Emmanuel Macron sur la scène européenne.
Est-ce qu'il y a d'autres défis pour Ursula von der Leyen? Qu'est-ce qu'on peut en nommer? Parce qu'il y a des défis, il y en a plein, il y en aura tous les jours, mais quels sont les défis principaux?
Alors, si on va un peu plus dans le dossier technique, il y a aussi le dossier de la transition écologique, du pacte vert. On en avait beaucoup parlé, puis ça avait été mis un peu en sourdine avec les épisodes à la fois de Covid et de la guerre en Ukraine. Mais c'est des questions qui sont éminemment politiques et qui ne font sens, encore une fois, qu'à l'échelle européenne. Si vous avez une libre circulation des biens et des personnes, les objectifs de, d'émissions net zéro à l'échéance 2050, etc., n'ont de sens qu'à l'échelle européenne. Donc ça, c'est un des défis aussi pour Ursula von der Leyen, c'est tout ce paquet vert, ce paquet écologique. L'autre défi, c'est évidemment toujours ces questions d'immigration, de gestion de l'immigration, avec, et ça c'est aussi important de le préciser, c'est que les alliances d'Ursula von der Leyen, maintenant, elles s'étendent aussi à des partis d'extrême droite. Par exemple, au parti Fratelli d'Italia en Italie. Mmh. Et donc, la question aussi de la gestion migratoire, elle va être, à mon avis, beaucoup plus prégnante dans cette deuxième partie de commission, dans ce deuxième mandat, pardon, Christophe, chez Ursula von der Leyen, qu'elle ne l'était lors de la, lors du premier mandat de la commission. Et puis, je finirai, la question, encore une fois, d'un bloc politique cohérent, à l'échelle mondiale, dans un monde qui est multipolaire. Mmh. Ça, c'est aussi un défi pour Ursula von der Leyen, parce que l'Europe a su faire preuve de cohérence politique. On l'a dit, hein, le Covid, l'Ukraine, il y a une réponse européenne. C'est quoi la réponse face à la Chine? C'est quoi la réponse face au défi de l'Indo-Pacifique, mmh, qu'on connaît bien ici, à Europa Voice et SBS? Et donc ça, c'est aussi pour Ursula von der Leyen vraiment un dossier auquel elle va devoir s'attacher, parce que sinon, l'Union européenne restera une coquille vide politique, d'une certaine façon. Mmh. Donc, écologie, pacte vert, les questions de l'immigration, et puis la question de la cohérence politique, notamment la question des affaires étrangères, d'une diplomatie européenne. Alors, petite information, l'ancienne première ministre d'Estonie va sûrement devenir la madame diplomatie de l'Union européenne.
D'accord.
Ce qui est bien, ce qui encore une fois redéplace un peu le curseur.
Elle est assez proche de Macron.
Elle est assez proche de Macron. Elle a fait tête aux velléités, aux déclarations en tout cas de Poutine. Et ça déplace encore un peu ce curseur, ouais, à l'est de l'Europe. Et ça, c'est intéressant, Christophe. Pour moi, c'est vraiment comment est-ce que l'Union européenne va permettre justement à ces États de l'est de l'Europe d'être forts, solide face aux ingérences et aux menaces extérieures comme l'est la Russie actuellement.
Ce qui est sûr, c'est que ce podcast a de belles heures, belles heures devant lui.
Exactement.
Merci Nathanaël.
Merci Christophe.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.